En tout cas, on ne pouvait imaginer que les uns qui venaient, entre guillemets, au nom d'un camp, entre, hein, et les autres qui étaient présumés être là pour un autre camp, ne pouvaient pas, en tout cas, conjuguer leurs forces pour empêcher les massacres. Bon, et cette solidarité a fait que les deux ont fui et, en plus, ont rapatrié les troupes des Nations Unies. Ça, je crois que c'est le premier élément fort. C'est-à-dire que le 11 avril, ça a été la débandade complète. L'ensemble des forces étrangères s'est retiré et on a laissé les belligérants face à face en sachant qu'un des deux camps était sûr de l'emporter.
Mais pas face à face. Le FPR, à tout moment, il suffit d'un AK-47 face à une foule de paysans, un groupe, une milice inarmée avec des machettes, avec une Kalachnikov, on les arrête. Donc, pourquoi est-ce que le FPR n'a pas enrayé ces massacres qui avançaient à travers le pays de manière méthodique ?
Ça, c'est une question que se pose un grand nombre de militants et de cadres du FPR encore aujourd'hui. Alors là, vous avez deux thèses qui prévalent, qui sont mises en avant régulièrement par le FPR. La première, elle consiste à dire que c'était une volonté d'économiser les forces. C'est-à-dire que, bon, vu les effectifs de la population Tutsi et de leurs propres forces venant de l'extérieur, en termes démographiques, pour le dire simplement, il fallait minoriser les pertes au niveau des troupes. Donc, ne pas aller à l'affrontement, mais ça peut être une tactique. De l'autre côté, bon, bah, c'est l'analyse machiavélique qui prévaut, à savoir que ça a été délibéré pour que les forces de l'intérieur, qui n'étaient pas acquises au FPR, la population Tutsi à l'intérieur...
La population à l'intérieur n'était pas acquise au FPR, dites-vous ?
Ah non, là, c'était les partis Tutsi de l'opposition qui avaient une assise extrêmement forte et qui ont toujours montré vis-à-vis du FPR. À chaque fois qu'il y a eu des débats, par exemple, sur les modalités d'un processus électoral qui prévaudrait à la fin de la période de transition, eux avaient un système qui n'intégrait pas le FPR dans les débats sur les circonscriptions électorales, sur le mode électoral à l'intérieur.
Ils sont des dizaines de milliers sur des dizaines de kilomètres.
France 2.
Un peuple en marche qui fuit son pays.
15 juillet 1994.
Poussé autant par l'avancée du FPR que par la propagande de l'ex-gouvernement rwandais qui leur a demandé de quitter leur village. Après les civils estimés aujourd'hui à plus de 500 000, ce sont maintenant les militaires de l'armée rwandaise qui cherchent à trouver refuge au Zaïre. Mais pour l'instant, c'est encore la débâcle dans le camp de l'ex-gouvernement rwandais. Une débâcle qui se traduit par l'exode de population le plus important de cette fin de siècle.
André Guichaoua, on continue avec toutes ces questions. Venons-en à un sujet qui n'est pas tellement dans votre livre. C'est ce fameux rapport publié par les Nations Unies, par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, sur ce qui s'est passé après ce dont nous parlons, c'est-à-dire après 1994, après que entre 1 et 2 millions de Hutus du Rwanda se retrouvent dans des camps de réfugiés de l'autre côté de la frontière, donc pour l'essentiel au Kivu. Dans ces camps, rapidement, ceux qu'on appelle les génocidaires, pour simplifier, prennent le contrôle de ces camps, malgré la présence du HCR, des grandes organisations humanitaires, et préparent, semble-t-il, la réplique et la revanche, entraînent leurs hommes et leurs troupes pour la revanche. C'est au moins l'interprétation que donne le pouvoir de Paul Kagame, qui a pris le pouvoir en juillet 1994 et qui se dit menacé par cette présence derrière la frontière, ce qui va lui donner un prétexte pour envahir en somme le Zaïre à l'époque. Mais ce qui va se passer, c'est que cette invasion du Zaïre va entraîner toute une série de massacres dans les camps de réfugiés et hors des camps de réfugiés sur ces populations, Hutus donc, pourchassés, massacrés, persécutés, jusqu'à Kinshasa, au cours de cette longue marche de Laurent Désiré Kabila jusqu'à Kinshasa. Au cours de ces événements, donc de nombreux massacres de Hutus qui figurent dans ce qu'on appelle le mapping, ce rapport. Ce n'est pas une surprise, Ce rapport n'est pas une surprise. Au fur et à mesure, on a eu des rapports, on en a eu d'autres, on a eu des reportages, on a eu des missions diverses et variées pour signaler, témoigner et s'indigner de ces massacres. Sauf qu'aujourd'hui,